Donc, tournez dans Philippiens chapitre 3. Je poursuis sur la prédication de la semaine dernière, toute la question du bien, du mal, l'origine de ça. Et je veux préciser, avant de commencer, de lire le texte de Philippiens, que cette idée-là du bien et du mal qui origine de la chute, et pas seulement le mal, mais le bien aussi. Puis je vais résumer encore parce que c'est fondamental. C'est que ce sujet-là, c'est pas, la Bible parle, un sujet quelconque parmi tant d'autres. C'est probablement le sujet fondateur de notre compréhension théologique. C'est une idée qu'on a découvert à travers un théologien qui s'appelle... Dietrich Bonhoeffer, en 1988, c'est Pasteur Jeff d'abord qui est tombé sur le livre « Éthique » de Bonhoeffer, et il s'est créé un cours à partir de ce livre en 88. Puis ce cours-là a été donné en 89, puis en 90, puis il a été donné, je ne sais plus combien de fois, mon frère Gilles saurait le nombre de versions de ce cours-là. En ce moment, la version qu'on rend disponible, c'est la version 94. Donc, ça remonte à quoi? On est en... ça fait 23 ans de ça. C'est quand même... Et ce cours-là est toujours aussi actuel qu'au moment où Pasteur Jeff le donnait, parce que c'est vraiment venu changer quelque chose dans notre compréhension de l'Écriture. Ça nous a fait quitter l'espèce de zone où on pense qu'on est appelé à devenir quelque chose de fantastique. Et, tu sais, comprendre que même le bien qu'on fait... qui est vraiment bien, se trouve continuellement contaminé par une nature contaminée elle-même par le péché. Et lorsqu'on dit ça, ça pourrait laisser entendre, bon, mais puisque c'est comme ça, faisons plus rien de bien, parce que de toute façon, ça ne donne rien. Mais ça aussi, c'est faux. On est appelé à marcher en obéissance à la volonté de Dieu, malgré ce fait, et malgré le fait que ce que Dieu nous appelle à faire, nous, dans notre justice propre, on va le récupérer pour nous-mêmes. On va se faire un peu de gloire avec ça. Qu'est-ce que vous voulez? On est esclaves. Mais en même temps, Dieu va l'utiliser quand même malgré ça, parce que puisqu'il nous a justifiés, il justifie également les œuvres qu'il nous appelle à faire selon sa volonté. Les autres qu'on fait, qu'on veut, parce qu'on veut, ça c'est du bois et du chaume. Mais celle qui nous appelle à faire, qui a prévu d'avance et qu'on répond, on doit répondre quand même. Et pas penser qu'on le fait inutilement à cause de cette nature corrompue. Et ça, c'est vraiment, vraiment fondamental dans notre théologie, je vous le dis. Là, il est arrivé à travers le temps que des gens viennent me voir. Je me souviens d'un pasteur en particulier qui m'avait dit, vous avez quelque chose, vous autres, la Bible parle, vous avez un ADN, une façon de twister, de pas twister, mais de tourner le message, puis c'est les mêmes versets, mais il dit, ça sonne particulier, puis il dit, j'aime ça. Puis là, il me dit, pourrais-tu me dire c'est quoi les livres que vous lisez? Puis il voulait une liste de 10 livres. Et là, j'étais là, c'est pas 10 livres. C'est pas ça. C'est comprendre la chute comme il faut et comprendre toute la question du péché et comment on est bâti, comment on est mal bâti et comment Dieu se glorifie quand même à travers tout ça. C'est pour ça qu'on en reparle régulièrement et qu'on répète parce que c'est quelque chose de fondamental. Ça change vraiment nos vies pour le mieux dans notre relation avec Dieu parce qu'on cesse de vouloir être des héros. On n'est plus dans ça, là. Donc, Philippiens 3, verset 1, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. » Qui nous glorifions en Jésus-Christ, qui ne mettons point notre confiance en la chair. Très important, ce qui est dit là. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Et là, Paul va définir qu'est-ce qu'il entend par sa chair. Parce que nous, dans notre christianisme postmoderne, la chair a des fruits qui sont visiblement mauvais. C'est que des mauvaises choses, la chair. Parce qu'on est pris dans l'idée que la chair, c'est des mauvaises choses, puis toutes les bonnes choses, eux autres, c'est correct. Hein? C'est ça qu'on... Mais Paul le défait, ce raisonnement-là, ici. « Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » L'apôtre Paul est en train de parler ici qu'il a renoncé à tout ce qu'il y avait de bon en lui. Puisque dans la liste des événements ou des éléments de sa chair, il n'y a rien qui est laid, qui pue, puis qui est mauvais dans ça. Hein? Peut-être persécuteur de l'Église. Mais ça, c'était à cause de son zèle. Donc, l'apôtre Paul, il fait un peu la liste des bonnes affaires dans sa vie. Il va dire, ça, c'est ma chair. Déjà là, ça vient nous débattre des concepts quand même. Parce que nous, on entend, quand on parle de renoncer au péché, on parle d'arrêter de fumer, mettons, d'arrêter de sacrer, d'arrêter de convoiter. Et c'est vrai, c'est juste. Mais on résume souvent le renoncement à nous-mêmes, à renoncer aux mauvaises affaires, parce que toutes les bonnes, eux autres, on se dit, ceux-là n'ont pas besoin d'être renoncés parce qu'elles sont fondamentalement bonnes. Et ce que Paul nous fait découvrir à travers ce texte, c'est que son plus gros problème n'était pas les mauvaises choses qu'il pouvait faire, mais son plus gros problème venait de ses bonnes choses. Donc, quand Jésus, dans Matthieu 12, Jean 12 et ailleurs, nous dit que pour marcher avec lui, on doit renoncer à nous-mêmes, je ne sais pas si vous comprenez que la taille de la chose à renoncer, c'est pas juste des comportements quelconques. C'est renoncer à tout ce qui fait également notre richesse, notre bonté. Ça nous aide à comprendre le jeune homme riche à qui Jésus demande de se débarrasser de ses biens, de le donner aux pauvres. Donc, la vertu ici n'était pas dans le fait qu'il aurait donné ces choses aux pauvres. C'est comme si Jésus était en train de lui dire, « Si tu veux me suivre, il va falloir que tu te débarrasses de ce qui te permet de te garder bon. Tu donnes tout, puis tu me suis moi seul. Tu ne seras plus capable d'être bon par toi-même. » C'est quelque chose, hein? Le gars, je pense qu'il a vraiment compris l'offre. Et il a dit, comme au banquier, « Cette offre est refusée. » C'est comme, c'est inouï quand même. C'est tellement pas simple. Paul Elian le disait tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, tu arrives dans ta vie, dans des moments où tu te dis, même peut-être mes bons projets devraient être mis à l'autel. C'est peut-être pas ça que le Seigneur m'appelle à être et à faire. Donc, c'est comme tout et c'est énorme ce que je vous dis là. Hein? Donc, Paul va dire au verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, des avantages, donc, je les ai regardées. » Le mot original, là, c'est « je les ai estimées », la valeur que je leur ai donnée, en d'autres mots, équivalent à celle d'une perte. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé. Donc, la fameuse idée du renoncement. Donc, il n'y a pas à renoncer juste à des péchés, il y a renoncé à des bonnes choses. Et je les regarde, encore le verbe estimer, comme de la boue. Donc, c'est plus juste comme une perte, il rempire. Là. Il va dire, c'est pire qu'une perte, c'est de la boue. Et le mot boue veut dire déchet, excrément. Pourquoi? Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Donc, laissant entendre que c'est les bonnes choses qu'il faisait qui avaient bâti sa justice. Donc, c'est pour ça qu'il s'en débarrasse, parce que la seule justice avec laquelle il va être trouvé, revêtu, celle qui vient de la loi, bien, c'est plutôt celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. C'est un concept qui mérite tellement d'être étudié en profondeur. Ce texte-là est riche, là, d'une richesse qu'on n'estime pas. Donc, tout ça, ça nous replace le portrait. On parlait d'image. Parce qu'au fond, c'est exactement ce que Paul est en train de dire. L'image que j'avais adoptée, c'est celle du pharisien qui réussit tout puis qui est irréprochable. Qu'est-ce que ça a produit, ça, dans ma vie, dit Paul? Ça m'a rendu violent. Vous lisez la première lettre à Timothée, j'étais violent, incrédule. Donc, ce n'est pas les mauvaises choses qui l'ont rendu comme ça, c'est les bonnes choses qui ont gonflé et nourri une justice propre en lui. Ça l'a rendu violent. Donc, le bien et le mal ont une même origine. Là, je vais vous lire un texte. C'est la chute adamique. Si cette idée n'est pas pleinement intégrée à notre compréhension de l'Évangile, nous croirons que Jésus est mort à la croix pour faire de nous des meilleures personnes. Forcément. Nous croirons que dès qu'un chrétien arrive à triompher de ses faiblesses extérieures, il est mature et donc plus propre à toute bonne œuvre. Vous savez, j'ai participé beaucoup quand j'étais plus jeune à des déjeuners de témoignage, j'en ai vu beaucoup. Et puis, une des particularités qui était intéressante, c'était de voir que les hommes, notamment, surtout les hommes qui venaient témoigner, ce qu'ils nous racontaient, c'est comment en Jésus, ils avaient arrêté de sacrer puis de fumer. Puis, donc, ils nous racontaient tout ce qu'il y avait comme péché visible et extérieur. C'est comme si l'œuvre de Dieu, ça avait été ça, finalement, le triomphe de leur vie. Tant mieux. Si on arrête de faire ces choses-là, vraiment, tant mieux. Mais à partir du moment où on croit que Dieu est mort juste pour ces mauvaises choses-là, puis qu'on n'a pas vu que tout l'autre aspect de notre triomphe dans la chair et de nos réussites sont probablement une contamination encore plus dangereuse que nos mauvaises choses, c'est qu'on ne saisit pas tout à fait la qualité de l'Évangile. Donc, nous réduisons la vie chrétienne à un phénomène moral axé sur le bien contre le mal, et de ce fait, méprisant ceux qui y arrivent moins bien que nous, tout en restant ignorant que cette attitude du mépris est en soi un mal profond, vraiment. Donc, on en vient à penser qu'il y a les bons, nous, et les autres, mauvais. Donc, vous avez dans cette clé d'explication-là tous les problèmes. Le racisme est là. Le racisme basé sur la couleur, sur la langue, sur la race, sur les origines, tout est là. On est toujours mis dans une conjoncture où on est certainement les bons de quelque chose, en opposition toujours aux mauvais. On ne voit pas que ça pourrait être nous. En fait, on se voit plus mauvais. Donc, il y a tout le syndrome du « moi, je prie, je lis ma Bible, j'évangélise, j'aide les pauvres, je suis fidèle ». Donc, ce sont des choses excellentes qui doivent être faites, mais qui deviennent des contaminants pour ma justice propre, parce que je crois que faire le bien est le but. Arrivé là, j'ai seulement oublié que le but, comment vous dire, c'est comme si on oubliait ou on ignorait que la vie chrétienne ne consiste pas en le fait d'atteindre des buts. On n'est pas appelé à porter des buts, mais à porter des fruits. C'est intéressant de voir que lorsque l'apôtre Paul dans Galates adresse cette question-là du fruit de l'esprit, lui, il voit la transformation à travers l'œuvre de Dieu, de l'Esprit-Saint, dans nos vies. Donc, il y aura transformation morale aussi. Mais elle se fait comme une œuvre qui est conduite par quelqu'un d'autre à travers nous, plutôt que de devenir un but en soi pour nos vies. C'est comme deux sortes de christianisme. C'est pas moi meilleur que je vais trouver. C'est Christ, mon Rédempteur. Tout est là. Vous savez, je fais de la cure d'âme, j'en fais beaucoup. Et dans bien des cas, je commence par Jésus-Christ dans la vie des gens. Là, je parle pas de faire accepter Jésus à quelqu'un. Je parle de gens qui sont déjà chrétiens, là, qui ont besoin d'aide. L'approche est toujours la même. Si Christ ne vient pas en aide, moi, je peux pas t'aider. Moi, je peux juste te donner des trucs, des idées, lire un livre, je peux faire ça, j'en ai plein, mais si tu ne vas pas t'humilier devant Jésus-Christ et crier à lui ton secours et ton besoin, et que si ce n'est pas lui qui te sauve de la situation dans laquelle tu es, on peut se rencontrer 2 fois, 10 fois, 20 fois, tu vas rester exactement le même. Parce que les transformations sont celles qui s'opèrent à travers une nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc, ça déplace. Donc, on va faire des œuvres pour Dieu, on va faire des grandes choses pour Dieu, mais il y a une différence entre faire des œuvres et essayer d'être un bon témoignage pour être remarqué. Tu sais, quand Pierre va dire que les gens pas sauvés vont remarquer vos bonnes œuvres, donc on n'a pas à les cacher. Mais il y a une énorme différence entre être remarqué pour nos bonnes œuvres et vouloir être remarqué pour nos bonnes œuvres. Et là, ici, là, je rentre dans toute la problématique, puis je sais que c'est un jugement gros comme 3 autobus que je suis en train de faire là, mais j'ai toujours l'impression que notre christianisme évangélique postmoderne s'en va nulle part, parce qu'il essaie de devenir bon au regard de ce monde. Regardez comme nous sommes bons. Et là, on trahit quelque chose. C'est pas vous et c'est pas moi que les gens doivent voir quand ils vous regardent et ils me regardent. Ils devraient voir Christ. Mais s'ils voient juste quelqu'un de bon et de fin, vous savez, si vous donnez votre témoignage, et votre témoignage consiste à dire que vous ne sacrez plus, que vous ne fumez plus, puis depuis je suis sauvé, j'aime ma femme et mes enfants, c'est super, hein? Sauf que si quelqu'un vous écoute, un homme qui ne fume pas, puis qui ne sac pas, puis qui aime sa femme et ses enfants, puis qui n'est pas sauvé, lui, il n'y a pas de bonne nouvelle dans votre affaire. Vous comprenez l'idée? Si c'est ma bonté, et encore là, c'est subtil, parce que les gens doivent voir en même temps, je suis porteur d'un témoignage en Jésus-Christ. Je le suis. On ne se livre pas à n'importe quoi, c'est vrai. Mais il y a une différence entre se livrer en spectacle, pas être revu des hommes. Je suis incapable. Donc, envoyez-moi pas de vidéo. Je vous dis, là, j'en fais de l'urticaire quand je vois ça. On vous montre un robineux sur la rue. Et le bon chrétien qui se filme en train d'aller porter un lunch. 500 likes. Et les gens disent, wow, ça c'est vraiment le Seigneur. C'est la chair, ça. Pourquoi? Parce que si tu le fais vraiment, tu n'as pas besoin de caméra puis de le montrer à la planète que tu es bon de même. Comprenez-vous le problème? Il semble que c'est évident. Fait que si on aime voir des choses comme ça, c'est donc que l'Évangile nous échappe. Malheureusement. Donc, on avait vu la semaine passée, et je conclurai sur un texte très important. Toute la question de la connaissance immédiate. J'aimerais juste le redire, parce que pour quelqu'un qui entend ça pour la première fois, il dit « Ouh, attends une minute. » Donc, le bien et le mal, pardon. Après la chute, quelle différence y a-t-il pour l'homme? Avant ou après la chute? C'est quoi la différence entre les deux? Avant la chute, l'homme connaît les choses, quelle que soit la chose, les arbres, les animaux, Dieu. de manière immédiate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mur de séparation entre lui et Dieu, et il n'y a personne qui se place entre Dieu et l'homme pour interpréter ce qu'il est en train de voir. Donc, sa connaissance est vraiment immédiate. C'est-à-dire qu'il connaît ce qu'il peut connaître directement de Dieu, et donc sans aucun médium qui se placerait au milieu. Mais lorsque Dieu demande à Adam, après la chute, « Qui t'a appris que tu étais nu? » Autrement dit, « Adam, tu viens d'apprendre que tu es nu par un nouveau média. » C'est ça la chute. C'est pas seulement un mur de séparation, c'est une nouvelle interprétation des choses. C'est ça l'œuvre du malin. Et le malin n'a pas invité Ève et Adam à dire, « Les gars, venez-vous-en dans ma gang, on va aller faire des messes noires. On va inventer une fête, l'Halloween. » Ça, c'est des naïvetés pour les ignorants. Le malin est pas mal plus subtil que ça. Il invite Adam et Ève au bien, à mieux que ce que Dieu présente. Mais ça, je ne peux pas rentrer là-dedans, c'est trop long à dire. Donc, Adam, tu viens d'apprendre que tu es nu par un nouveau média. Puisque tu te caches, et si ce n'est pas moi qui t'ai appris que tu étais nu, mais d'où le sais-tu? Donc, évidemment, c'est tout ça, la chute. La honte, la peur qui envahit Adam après la chute le conduit à aller se cacher, à se rhabiller, à se faire une nouvelle image, image qu'il vient de perdre. Il vient de perdre sa relation immédiate avec Dieu. Donc, toute connaissance qu'il aura de son environnement n'est plus immédiate, mais elle devient médiate. Donc, il y a toujours un média. Donc, ça explique plein d'affaires. Ça explique pourquoi on se réinvente des divinités. Et on fait pire que ça. Je vous demanderai de tourner dans Exode chapitre 32. Parce qu'après la chute, Dieu et l'homme sont séparés. Donc, même l'homme ne sait plus exactement qui est Dieu. Bien que Dieu laisse dans le cœur de l'homme une pensée de l'éternité, comme dit l'Ecclésiaste. Donc, cette intuition que Dieu existe, tous les êtres humains l'ont. Il y en a qui la rejettent, mais tout est là. Mais à la fois, on ne sait pas il est qui. Et même un peuple, les Hébreux, j'aime toujours dire ça, qui ont reçu tous les oracles de l'Éternel. Imaginez, là, ils sont théologiquement ferrés, ce peuple-là, quand Jésus-Christ se présente, image de Dieu. Si vous lisez là, Hébreux chapitre 1, les premiers versets, il est l'empreinte de Dieu. Là. Ils ne reconnaissent pas. C'est à ce point que l'homme, même dans les meilleures conditions théologiques, n'a pas été capable de reconnaître Dieu fait homme. Et Philippe, un des proches de Jésus, c'est dans Jean 14, il dit à Jésus, « Montre-nous le Père. » Hein? « Montre-nous le Père. » Mais je trouve ça pittoresque. C'est comme s'il dit, « Parce que l'image de Dieu, là, toi, là, t'es un gars avec les cheveux longs, là, c'est pas convaincant. » Mais en même temps, il a fait des miracles, il a fait des guérisons, il a ressuscité des morts. Fait que Philippe, c'est comme si obligé de reconnaître qu'il s'est passé quelque chose avec toi, mais ben moi, ça ne me contente pas. Montre-nous le Père. Et Jésus de répondre, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Ah ben. C'est décevant. C'est comme. C'est comme si Jésus avait dit, écoute, d'abord, voir Dieu dans toute sa gloire, ça, je peux pas, parce que si ça t'arrivait, tu vas toaster, tu peux pas survivre à ça, tu peux pas voir Dieu et vivre. Dieu dans toute son immensité. OK, ça, non. Mais quand ce Dieu d'immensité, de gloire extraordinaire, quand il décide de devenir un homme, bien, ça ressemble à Jésus. Tu sais, contrairement à des idées que j'entends, il a décidé de naître humble, il a décidé de. Tu sais, comme si Dieu avait dit je vais avoir l'air du pauvre. Non, c'est Dieu fait homme, c'est un gars normal qui s'est appelé Jésus. Ça prouve à quel point, ça montre en tout cas, à quel point l'homme, même le plus connaissant, même en théologie, a de la difficulté à savoir, mais qui est donc Dieu? Dans Exode chapitre 32, versets 4 à 8, il est écrit, bon, vous connaissez les versets 1, 2, 3, là, c'est cette histoire où les Hébreux ont vu Moïse partir sur la montagne. Tu sais, c'est toute l'histoire des oracles de l'Éternel, comme tout un Moïse qui se promène, qui revient. Bon, et là, à un moment donné, ils sont tannés d'attendre parce qu'ils espéraient d'aller comme dans leur concept. Il va chercher des choses en haut de Dieu, puis ils s'attardent, c'est long. Et puis, fait qu'ils vont dire, écoute, ce Moïse... C'est comme ça qu'il l'a dit, ce Moïse qui est là, nous ne savons où il est. Tu sais, c'est comme, toi, c'est son frère ici, là, j'ai oublié son nom, Aaron, fais-nous un Dieu, toi. Tu peux-tu nous en faire une image, ce Dieu-là? Et là, nous, on pourrait entendre, si on lit mal le texte, qu'ils sont dans une rébellion négative contre l'Éternel. Mais ce n'est pas ça qui se passe. En fait, ils sont en train de dire, on veut le voir. Hein? Comme disait Yvon Deschamps, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Et là, Aaron, lui, il dit, il dit, donnez-moi vos breloques, vos bébelles, toutes vos richesses. C'est un beau geste. Pensez-y. Eux autres ne sont pas dans une attitude là, de mauvaise à cœur en disant on veut se rebeller contre lui. C'est non, nous autres, on est prêts à mettre nos richesses là-dessus. Là. Fait qu'ils amènent le breloque, eux autres, puis il fait fondre ça. Donc, il l'a reçu de leurs mains, jette alors dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu. Vous comprenez la dynamique? Il n'est pas en train de dire, Israël, voici un autre Dieu, parce que Moïse... Non. Il est ça, ton Dieu. Comprenez-vous, c'est que l'image de Dieu, à quoi il est, qui il est, à quoi il ressemble, va suivre un imaginaire culturel reçu de l'Égypte. Parce qu'il y avait des divinités en Égypte, il y en avait beaucoup, dont celle de la vache et des veaux et de ce genre de culte-là, là-bas. Donc, ils vont reconstruire un Dieu à partir d'une image, une référence culturelle qui est là, pas loin d'eux. Vous me voyez venir. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait, nous autres? Une couple de milliers d'années plus tard, on se le rebâtit tous aussi avec nos breloques, le Dieu qu'on sert. Donc, lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de Satan. » Non, de l'Éternel. Convaincu, on est sur la bonne piste, les amis. Le Seigneur va être content du party qu'on lui prépare. Un gros Alléluia party. On va faire ça, nous autres, comme on aime faire ça. Parce que cette idée règne dans nos vies que Dieu... Tu sais, quand on dit « Dieu regarde au cœur », c'est vrai, mais ça nécessite des précisions. Il faut comprendre que à la fois notre cœur mauvais, c'est notre cœur tortueux, c'est pas fort à regarder là non plus. Dieu regarde aussi, et notamment, à l'obéissance. Donc, le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. C'est fort, là. Pour nous autres, ils sont en train d'honorer Dieu. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent et se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple... » Trop intéressant. Quand ils sont dans la rébellion, Dieu disait, « C'est ton peuple, ça. »« Que tu as fait sortir du pays d'Égypte, c'est corrompu. » Tu sais, là, c'est que tu as fait sortir d'Égypte. C'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite et ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, vous comprenez qu'il n'y a rien dans l'idée qui suggère qu'eux autres sont en train de vouloir faire un Dieu étranger. Leur attitude, leur intention est fondamentalement bonne. Bonne. Le bien de la chute nous est présenté de façon claire ici. Et Moïse aurait pu plaider avec Dieu, écoute Seigneur, vois leur cœur. T'sais, quand même, tu vois pas là, qu'il essaie de se mettre en relation. Comprenez-vous, nous autres, on gère ça comme ça au troisième millénaire. Tout est émotion. Une bonne intention, ça suffit. Mais réalisez-vous que Dieu dit non. C'est non. C'est une insulte. Même si l'intention est bonne et qu'ils veulent m'adorer, qu'ils m'ont offert des sacrifices, Dieu refuse qu'on le fasse à notre façon. C'est stupéfiant, ça. C'est épeurant. Ça nous amène à dire ceci. Dieu refuse toute image de lui-même produite par les meilleures intentions de l'homme parce que, dans tous les cas, cette image sera une représentation imaginée par l'homme séparé de Dieu. Donc, vous avez, à travers cette idée, la raison pour laquelle il existe tant de religions. Donc, qu'est-ce qu'une religion, sinon un concept, une invention de quelqu'un qui s'invente un Dieu quelconque? Et là, on pourrait dire, mais ça, c'est vrai, juste des païens, mais nous, on ne fait pas ça. Dernièrement, j'entendais dire, on va juste voir des figures de Dieu qu'on s'est faites, là, puis qui sont... Puis le problème avec une figure, c'est qu'elle n'est jamais complètement fausse, mais le problème, c'est qu'on aime penser, on aime comme on pense. On aime penser ce qu'on pense, on aime ça, il y a du confort. Dernièrement, j'entendais quelqu'un qui logeait un texte, ça disait que les chrétiens devraient être à l'image de Jésus, accueillant. Jésus accueille, paraît-il. Où ça? Dans l'Écriture, il a accueilli certains, puis il n'a pas accueilli d'autres. Il en a ramassé quelques-uns avec un accueil solide. Allez lire Jean 8. C'est étonnant comment, oui, il est accueillant pour des gens humbles, mais il n'est pas fondamentalement accueillant. Jésus serait l'incarnation d'un Dieu d'amour sympathique. Non. Il n'a pas été sympathique avec quelques-uns. Il y en a qui ne l'ont pas aimé. Si vous voulez la preuve que Jésus n'était pas si sympathique que ça, sympathique, attention, sympathique au sens où on l'entend, on est séparé de Dieu. La preuve qu'il n'était pas sympathique, c'est que quelqu'un de sympathique, tu ne le crucifies pas. Vraiment. Ils l'ont crucifié avec une cruauté sans borne. Ils le haïssaient. Pourquoi? Ben, il ne s'est pas livré à leur truc. Donc, on s'invente un Dieu. Donc, il y a le Jésus écolo aussi en ce moment, très populaire. Les églises devraient devenir écolo. Donc, on se crée une image d'un Jésus qui veut sauver la planète. On continue à mettre un peu l'Évangile à travers ça, mais ça devient... C'est juste un autre veau d'or. Il y en a d'autres. Hein? Le Jésus pauvre... Chez les catholiques, ça a été beaucoup développé. Les chrétiens, là, dans certains siècles, là, notamment 12e, 13e, dans les monastères, c'était l'idée qu'on veut tellement vivre à l'image de Jésus qu'on vivait avec rien, pauvre, dénudé. Écoutez, en Égypte, là, dans les premiers siècles de l'Église, il y avait ces moines qui se grimpaient sur des poteaux. Ils vivaient nus, eux autres, certains d'entre eux. C'était juste un veau d'or, une image de Jésus-Christ qui ne lui ressemble pas du tout. Mais qu'on aime bien adopter l'image de l'hyper-humilité. Vous avez l'autre gang, l'autre côté, eux autres, c'est pas le Jésus pauvre, c'est le Jésus riche. Prosperity gospel. Des médailles sur la bedaine qui flottent dans le poêle, et puis des bagues. Prédicateur de puissance. Et là, comprenez-vous, c'était un autre veau d'or encore, de ce côté-là. Le Jésus de la louange. Le Jésus de la louange. Beaucoup de croyants carburent à la louange. Zéro relation avec Dieu. Zéro relation avec l'œuvre et le sacrifice de Christ qui devrait me rendre reconnaissant à Dieu. Mais invite-moi dans un party de louange à 3 heures. Ah, ça, oui, par exemple. Quelqu'un me dit, il y a 2 ans, il dit, la louange n'est pas assez forte, intense dans votre église. Il dit, moi, ça me prend ça. Je dis, si ça te prend ça, c'est parce que tu n'as jamais loué le Seigneur, mon pauvre toi. Si ça te prend des circonstances, des décibels, des machines de la lumière et de la boucane, Ça veut dire que tu as zéro reconnaissance avec Dieu parce qu'un adorateur n'a pas besoin de ces choses-là. Il est d'abord dans une attitude de reconnaissance. Fait qu'il y ait un piano, deux pianos, 10 pianos, 25 spots, ça ne change rien à son adoration. Mais ça, c'est une autre déviance. Il y a des déviances dans toutes les particularités de ce qu'on veut bien. Donc, le Jésus là, que j'imagine, le Jésus que vous imaginez, est-il bien ce Jésus qui est venu il y a 2000 ans et qui revient bientôt? Ou est-ce que c'est une pâle copie de notre imagination? C'est pour ça que l'Écriture doit sans cesse être l'objet de notre attention. Si on a du temps à mettre dans quelque chose, là, faut pas penser qu'on a trouvé. Tu sais, qu'on s'est stationné dans quelque chose doctrinalement, théologiquement, c'est confortable, ça. J'habite là, puis il y a plus, il y a encore plus, il y a encore plus, il y a encore plus à trouver parce qu'on veut être en relation avec ce Dieu qui est l'image de Christ aujourd'hui. Alors, Seigneur, merci de bénir ta parole aujourd'hui. Merci pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur, et j'ajouterai ce matin, merci, Seigneur, pour ton pardon continuel pour nous. Seigneur, continuellement, tu nous laves, tu nous purifies de toutes ces folies qui nous animent, de toutes ces séductions qu'on ne voit pas de nous-mêmes. Et Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement gracieux, parce que tu ne tiens pas compte, Seigneur, de nos folies, de nos égarements. Mais Seigneur, vraiment, tu veux nous délivrer, nous éclairer, nous instruire, nous conduire par ta main. Amen. On va faire le cantique.